Bonjour Samara. J'aimerais lire avec vous, pendant que vous mettez le diapo, super, 2 Chroniques chapitre 34. 2 Chroniques chapitre 34. Et je vais lire quelques versets de ce chapitre sur lequel on va se pencher ce matin ensemble. Donc, tout d'abord, les versets 1 à 3. 2 Chroniques 34, 1 à 3. Josias avait 8 ans à son avènement et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit l'exemple de son ancêtre, David, sans jamais s'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Dès la 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il entreprit de chercher à plaire au Dieu de David, son ancêtre, et la 12e année, il se mit à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des pieux sacrés d'Achéra, des idoles de bois sculpté et des idoles en métal fondu. Un peu plus loin, les versets 8 à 9. La 18e année de son règne, afin de purifier le pays et le temple, il envoya Shaphan, fils d'Atsalia, à Maesayou, le chef de la ville, et Yoa, fils de Yoaz, l'archiviste, pour réparer le temple de l'Éternel, son Dieu. Ces trois hommes se rendirent auprès du grand prêtre Hilkia et lui remirent l'argent qui avait été apporté dans le temple de Dieu et que les Lévites, portiers de l'entrée, avaient collecté des tribus de Manassé et d'Éphraïm et du reste des Israélites du Nord, ainsi que de tout Juda et Benjamin et des habitants de Jérusalem. Et puis un peu plus loin, verset 14. Au moment où l'on retira du coffre l'argent qui avait été apporté au temple de l'Éternel, le prêtre Hilkia découvrit le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse. Alors Hilkia dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans le temple de l'Éternel. » Et Hilkia remit le livre à Shaphan. Celui-ci apporta au roi et lui fit un rapport. « Tes serviteurs, dit-il, ont fait tout ce qui leur a été commandé. Ils ont versé l'argent qui se trouvait dans le temple de l'Éternel aux responsables et aux entrepreneurs des travaux. » Puis il ajouta, « Le prêtre Hilkia m'a remis un livre. » Et Shaphan se mit à en faire la lecture devant le roi. Lorsque Josias entendit le contenu de la loi, il déchira ses vêtements. Puis il convoqua Hilkia, Ahikam, fils de Shaphan, Abdon, fils de Miché, Shaphan, le secrétaire, et Adaya, l'un des ministres. « Allez consulter l'Éternel pour moi, leur dit-il, ainsi que pour le reste du peuple qui se trouve en Israël et en Juda, au sujet des enseignements du livre que l'on vient de retrouver. Car la colère de l'Éternel est bien grande. Elle s'est répandue sur nous, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi à la parole de l'Éternel et n'ont pas appliqué tout ce qui est écrit dans ce livre. » Si je vous dis 67P, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? 67P. Pourtant, c'est un chiffre qui a fait l'actualité toute la semaine. 67P, c'est le numéro de la comète sur laquelle s'est posé l'atterrisseur Philae, qui a été envoyé par la sonde Rosetta. C'est une histoire incroyable, ce qui s'est passé cette semaine, et ça fait la une des journaux. C'est pas pour rien. Si l'homme a mis le pied sur la Lune en 1969 pour la première fois, c'est en 2014 que pour la première fois, un atterrisseur se pose sur une comète à 450 millions de kilomètres de la Terre. Alors, juste pour avoir un ordre d'idée, la semaine passée, Pierre Celotti, qui était ici, nous a dit que quand il était commercial, pendant 3 ans, il a fait plus de 100 000 kilomètres par an. C'est pas mal. Cette sonde, Rosetta, a fait 450 millions de kilomètres depuis 2004, où elle a été lancée de la Terre. Ce qui fait une moyenne de 45 millions de kilomètres par an. Pour se donner une idée de la distance qu'elle a parcourue, la vitesse à laquelle elle est allée. Mais ce qui est incroyable dans cette sonde, c'est que si les ingénieurs ont mis 10 ans à mettre en place le lancement en 2004, s'ils ont réfléchi à la trajectoire, s'ils ont pensé comment faire pour que cette sonde atteigne la comète qui se trouvait à 450 millions de kilomètres, en réalité, ils ont dû adapter la trajectoire au fil de son voyage dans l'espace. Et ce qui est incroyable dans ce qu'on a entendu cette semaine, c'est qu'en fait, le centre de contrôle de l'Agence spatiale européenne, qui est basé à Cologne, est en contact avec cet atterrisseur, Philae, à l'autre bout de l'univers. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est exactement ce qui se passe, en fait, dans la vie du roi Josias. Josias est une sorte de roi exceptionnel, extraordinaire, qui apparaît comme ça dans l'histoire des rois d'Israël, mais dont la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dieu lui envoie des informations pour corriger sa trajectoire, pour corriger ses objectifs. Josias, c'est un roi extraordinaire dans l'histoire d'Israël, tout simplement parce que, en tant que roi, c'est le 18e roi du royaume de Juda, et c'est en fait le 4e sur ces 18, c'est le 4e à montrer de l'affection pour Dieu et à montrer un désir de plaire à Dieu. Les précédents, c'était David, qui est la norme des rois dans les chroniques, Salomon, son fils, bon, qui a eu un parcours un petit peu chaotique, et puis ensuite, on trouve que Ézéchias, comme roi, qui a voulu plaire à Dieu. Donc Josias, c'est une exception, c'est une planète parmi les rois d'Israël. Et vous allez voir que s'intéresser à son parcours, c'est voir à quel point ce roi exceptionnel, si exceptionnel qu'il soit au départ, est un roi qui a été petit à petit transformé par Dieu et dont la trajectoire l'a mené à une destinée bien différente de ce qui était prévu au départ. Josias, un roi influencé par le livre, et je vous propose de réfléchir à trois aspects concernant son évolution. Tout d'abord, c'est un roi pieux et sous bonne influence. Ensuite, c'est un roi curieux et influençable. Et enfin, c'est un roi joyeux et influent. Un roi pieux et sous bonne influence. Alors, pourquoi ça? En fait, pendant longtemps, quand je pensais au roi Josias, je me disais, ah ouais, c'est le roi qui tout d'un coup a découvert le livre de la loi caché dans un placard du temple, et voilà que ça a été un bouleversement dans sa vie et que sa vie a changé. En fait, ça, c'est une partie de la vérité, mais quand on étudie bien le texte, on réalise que Josias, c'est un roi dont la transformation se fait petit à petit. À 8 ans, il devient roi, très jeune, dans des circonstances un peu compliquées. Son père a été assassiné. Les assassins de son père ont été massacrés. Et c'est le peuple qui veut absolument le porter au pouvoir. Mais ce qui est impressionnant, c'est que dès l'âge de 8 ans, jusqu'à l'âge de 20 ans, il manifeste son désir de connaître Dieu. Le passage nous dit, dès la 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il entreprit de chercher à plaire au Dieu de David, son ancêtre. On voit là donc un roi, enfant, un enfant roi, mais qui a un désir très jeune de plaire à Dieu. Et puis à 20 ans, il prend une décision, il monte sur son cheval et il se met à faire la tournée du royaume de Juda. Il va commencer à purifier Juda et Jérusalem, nous dit le texte. C'est-à-dire qu'il va commencer à détruire des idoles, des symboles de dieux étrangers qui concurrencent le dieu auquel il souhaite plaire, et il va commencer à influencer son peuple. Mais ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'en fait, à 26 ans, il lui passe une idée qui est « Tiens, il faut que je répare le temple de l'Éternel, mon Dieu ». Ce roi de Juda est donc à Jérusalem, son palais est à Jérusalem. Jérusalem, c'est aussi le lieu où se trouve le temple juif, le lieu où tout le royaume de Juda est censé venir adorer Dieu. Et puis, il décide de réparer ce temple. Alors pourquoi cette décision? Pourquoi à 26 ans? Alors, c'est difficile de répondre à cette question. Peut-être que, tout simplement, ce roi... et connaissait la valeur de ce temple, avait l'envie de revenir sur les traces de Salomon qui avait construit ce temple et avait aussi conscience que ce temple avait été très mal entretenu dans les années passées. Le texte nous dit que la charpente était en train de tomber en ruine. Autrement dit, il y avait certainement des fuites, même s'il pleuvait pas souvent, il pleut pas souvent à Jérusalem. Le toit était en mauvais état et il fallait absolument faire quelque chose. Et il y a une raison cependant qui me semble beaucoup plus importante que les autres, c'est qu'en fait, ce roi qui désire plaire à Dieu se dit, tiens, pour plaire à Dieu, pourquoi ne pas prendre soin du temple où Dieu est adoré? Et il se trouve qu'il est bien entouré, qu'il est sous bonne influence. Il y a des personnes autour de lui, quand ils vont entendre ça, qui vont lui dire, ok, on est avec toi, on va t'aider dans ta tâche. Ces personnes sont ses plus proches conseillers. Je vous en ai mis quelques-uns ici. Ilkiya, Yoach, Afan. Dommage que ça ne marche pas pour le Scrabble, c'est les noms propres. Le grand prêtre Ilkiya, le premier, porte un nom un nom intéressant. Vous savez que parfois les noms des personnages dans la Bible ont une signification spirituelle et qui montrent quelque part leur personnalité. Ilkiya, ça veut dire l'Éternel est ma part. Voilà un homme qui a fait certainement un bon choix en tant que grand prêtre, celui qui représente Dieu parmi le peuple. L'Éternel est ma part. Yoa, qui est l'archiviste, cela signifie l'Éternel est frère. Voilà quelqu'un qui certainement avait une relation avec Dieu assez personnelle. Et puis le troisième, Chafan. Alors là, pour comme quoi la signification des noms a parfois une limite. Chafan, ça veut dire blaireau des montagnes. Là, je ne vois pas l'application. Par contre, Chafan a une particularité, c'est que c'est le premier secrétaire du roi, son premier conseiller, son premier ministre, si vous voulez. Et c'est donc l'homme de confiance de Josias. C'est celui qui va soutenir les choix de son roi, quel qu'il soit. Et ici, en particulier, il a la responsabilité, il est chargé par Josias de mettre en place les étapes de la restauration du temple. C'est lui donc qui est chargé d'aller mettre en place la récolte de l'argent nécessaire à cette réparation, de mettre en place des responsables de chantier, etc., pour que cette restauration ait lieu. D'ailleurs, ce Chafan, c'est un homme assez extraordinaire parce que on le connaît mal. Il n'y a pas vraiment d'autres textes qui parlent de lui. Par contre, on a une information sur son fils, qui est aussi présent à la cour du roi Josias. Le fils de Chafan a joué un rôle, notamment dans la vie de Jérémie, qui est un contemporain du roi Josias. Jérémie, à un moment donné de sa vie, a été dans une situation assez critique. Ce qu'il disait en tant que prophète ne plaisait pas vraiment aux responsables politique de l'époque, et c'est Chafan qui a protégé Jérémie, qui l'a caché pour qu'il ne soit pas mis à mort. Donc on voit que ce Chafan, on voit que son fils, sont des personnes qui ont envie de plaire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier constat? Josias, c'est un roi pieux qui cherche à plaire à Dieu dès son enfance et qui est entouré par des personnes qui ont une bonne influence sur lui. En quelque sorte, c'est un roi qui nous dit, qui nous apprend que il est possible de plaire à Dieu et de chercher à plaire à Dieu très jeune. Pas la peine d'avoir son bac pour ça. Dès 8 ans, c'est possible de vouloir plaire à Dieu. Et puis deuxièmement, on voit que c'est un roi qui soigne les personnes qui sont autour de lui et qui est sous bonne influence. Mais finalement, on va voir que être pieux, être sous bonne influence, eh bien, ça ne suffit pas pour être sûr de plaire à Dieu. C'est pour cela qu'on a besoin d'avancer dans le texte et de découvrir que ce roi pieux, c'est aussi un roi curieux, mais qui a développé un trait de caractère particulièrement positif pour lui, il est devenu influençable. Alors, Josias a mené 3 actions au cours de cette restauration du temple. Les 3 D. Il découvre, il déchire et il décide. Tout d'abord, il va découvrir le livre de la loi. Je vous relis ce passage, verset 14 du chapitre 34 des Chroniques. Au moment où l'on retira du coffre l'argent qui avait été apporté au temple de l'Éternel, le prêtre Hilkia découvrit le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse. Alors Hilkia dit à Shaphan le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans le temple de l'Éternel. » Et Hilkia remit le livre à Shaphan. Là, on peut se poser la question, mais attendez. Ce peuple juif qui était censé être le peuple de Dieu, comment est-ce que c'est possible qu'ils aient oublié le livre de la loi? Lorsque j'ai emménagé pour la première fois dans mon appartement, en région parisienne, j'ai mis un peu de l'ordre dans mes affaires, et puis je tombe sur une enveloppe dont j'avais complètement oublié l'existence. Je l'ouvre, et à l'intérieur, un billet de 100 francs. Oh mince, avec une petite carte, joyeux anniversaire, pour tes 16 ans, 1996. Et j'ouvre l'enveloppe 10 ans après. Alors, sur le coup, je me dis, waouh, 100 francs, super, et tout, heureusement que je les ai trouvés, ça aurait été dommage de les perdre. Et puis, d'un autre côté, bon, on était déjà passé à l'euro. Donc, il ne me restait qu'une solution, c'était d'aller à la Banque de France, à Paris, pour échanger mes 100 francs contre 15 euros, yes. Et, comme quoi, c'est possible, ouais, c'est possible d'oublier des choses importantes. Est-ce que vous vous souvenez, est-ce que vous êtes capable de me dire quel roman votre grand-père lisait quand il avait 20 ans? Ok, moi je peux pas. Enfin, je pourrais que je l'appelle, mais je pense que ici c'est ce qui s'est passé pour ce livre de la loi. Ce livre de la loi, en fait, il avait plus d'intérêt pour le grand-père de Josias. Lui, il était plutôt intéressé par les cultes voués aux idoles. Le livre de la loi était peu intéressant pour le père de Josias. Pareil, il était plutôt intéressé par le culte des idoles. En fait, il y a plusieurs dizaines d'années, une soixantaine d'années qui se sont écoulées pendant lesquelles le livre de la loi, finalement, n'a pas été consulté. En fait, il était au fond d'un placard, et c'est en prenant le coffre, qui était aussi au fond d'un placard pour mettre l'argent dedans, qu'on trouve à côté ce livre de la loi. Sauf que, lorsque ce livre de la loi est découvert, lorsqu'il est rapporté au roi, et que ce livre de la loi est lu au roi, le roi a une attitude assez extraordinaire, assez spéciale. Il déchire ses vêtements. Alors comment expliquer que Josias ait une telle attitude? Ben, écoutez, certainement, voilà le passage sur lequel il a dû tomber, le passage qu'il a dû entendre. Ça vient de Deutéronome, chapitre 29, verset 25. Le peuple s'est mis à rendre un culte à d'autres divinités. Ils ont adoré des dieux qu'ils ne connaissaient pas auparavant et qui ne leur avaient pas été donnés en partage. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'est enflammée contre ce pays et il a fait venir sur lui toutes les malédictions inscrites dans ce livre. Dans sa colère, sa fureur et son indignation, il a déraciné ce peuple de son pays et l'a chassé dans un pays étranger où il vit encore aujourd'hui. Lorsque Josias entend ces paroles terribles qui expliquent que si le peuple se détourne de Dieu et suit des idoles, Dieu va se mettre en colère et va déporter le peuple, il n'a qu'une réaction possible, il déchire ses vêtements. Et il affirme, la colère de l'Éternel est bien grande, au verset 21. Elle s'est répandue sur nous parce que nos ancêtres n'ont pas obéi à la parole de l'Éternel, ils n'ont pas appliqué tout ce qui est écrit dans ce livre. Et lorsque Josias dit cela, il a conscience qu'il dit vrai. Vous savez quelle était la réputation de son grand-père, Manassé? 55 ans de règne, et il a offert son propre fils en sacrifice. Il a offert son propre fils en sacrifice pour une idole. Alors son fils, non pas celui qui a été sacrifié, mais son fils qui avait eu le pouvoir, qui s'appelait Amon, donc le père de Josias, lui, il a eu un règne beaucoup plus court, 2 ans de règne. Il était aussi pour les idoles. Alors, il n'a pas eu le temps de sacrifier son fils, Josias est là, et il a été renversé assez rapidement du pouvoir. Josias a une réaction. Il déchire ses vêtements, il est saisi par la gravité de la situation, il a conscience que la colère de Dieu pèse sur son peuple, mais il a surtout conscience que la colère de Dieu pèse sur lui. Alors qu'il s'est appliqué depuis son enfance à plaire à Dieu, alors qu'il a cherché à prendre des bonnes décisions qui fassent plaisir à Dieu, le voilà à 26 ans qui déchire ses vêtements et qui réalise que la colère de Dieu est sur lui. Ce qui est assez incroyable dans cette histoire, c'est que son fils, qui s'appelle Joachim, qui va prendre le pouvoir après lui, va vivre à peu près la même histoire. Joachim, qui est donc un contemporain de Jérémie, va recevoir de la part de Jérémie un livre dans lequel Jérémie a transcrit les paroles de Dieu pour le peuple de Juda. Et voilà ce que nous dit le texte. Lorsque Jéhudi eut lu 3 ou 4 feuilles, le roi Joachim coupa le livre avec le canif du secrétaire et le jeta dans le feu du brasier où il fut entièrement consumé. Le roi et tous ses serviteurs ne furent point effrayés. Deux situations semblables. Les deux reçoivent une mauvaise nouvelle. La colère de Dieu est sur toi, mais les deux rois ne réagissent pas pareil. Il y en a un qui déchire ses vêtements et l'autre qui déchire le livre. Il y en a un qui déchire ses vêtements en montrant qu'il est affligé, qu'il a besoin de se repentir et montrer à Dieu qu'il est touché, et l'autre qui n'est pas effrayé, qui sort son couteau et qui met le livre en pièces et le brûle. Si on voulait être plus général, quelles sont nos réactions lorsque nous vivons un choc dans notre vie? Un choc qui remet en question notre manière de vivre, nos choix de vie, nos valeurs. Ça peut être un choc qui fait partie du cours de la vie. Une naissance, qui est un choc. Un mariage, qui est un autre choc. Un décès, qui est aussi un choc. Lorsque notre situation dans la vie change, lorsqu'on passe du primaire au collège, du collège au lycée, du lycée au supérieur, de l'enseignement supérieur à la vie professionnelle, comment est-ce que Josias a réagi au choc qui était face à lui lorsqu'il a réalisé que ses valeurs, que ce en quoi il croyait, que les efforts qu'il avait faits pour plaire à Dieu n'étaient pas suffisants pour lui plaire? Et c'est là où le texte est extraordinaire, c'est que le texte nous dit qu'il a laissé son cœur être touché. Josias a laissé son cœur être touché. Pourquoi est-ce qu'il a laissé son cœur être touché? Eh bien parce que dès l'âge de 8 ans, il a pris l'habitude de chercher à plaire à Dieu. Et parce que il était entouré de personnes qui lui avaient appris que c'était important de se laisser influencer, de se laisser transformé quand Dieu avait quelque chose à lui dire. Ainsi, à 26 ans, lorsqu'il trouve le livre de la loi, il ne fait pas que trouver le livre de la loi. Il découvre le Dieu du livre à travers ce livre de la loi. Il découvre que ce livre est vivant et que ce livre lui parle d'un Dieu qui est vivant et qui peut encore transformer sa vie. Et vous voyez le parallèle qu'on peut faire avec notre vie. En tout cas, moi, ça me parle. Je suis chrétien depuis 16 ans. Je connais Dieu depuis plusieurs années. Mais finalement, ça veut dire quoi pour moi aujourd'hui? Oublier le livre. Je lis ma parole, je lis la Bible tous les jours. Mais finalement, est-ce que pour autant, je n'ai pas oublié le livre? Vous voyez, le fait est qu'aujourd'hui, le problème, ce n'est pas d'avoir le livre sur une bibliothèque qui prend la poussière. Le problème, ce n'est pas de lire le livre tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an. La question est, quand je lis le livre, quand j'ouvre le livre, est-ce que j'oublie le livre? Ou est-ce que je l'ouvre en me disant, Dieu a quelque chose à me dire, Dieu veut me parler, Dieu est vivant et Dieu est là peut-être pour me secouer, pour m'annoncer une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle, pour me remettre en question. Oubliez le livre, c'est cela, c'est ouvrir la Bible en considérant ce livre comme un autre, en considérant ce livre comme une lettre morte qui n'a plus rien à nous dire. Comment ce livre peut toucher mon cœur encore aujourd'hui? Comment ce livre peut toucher ton cœur encore aujourd'hui? Je crois qu'on a encore une leçon à apprendre de la part de Josias ici, c'est qu'il décide de consulter l'Éternel. Il ne s'est pas arrêté à déchirer ses vêtements et à dire « Ah, la colère de Dieu est sur moi !» Il décide de consulter l'Éternel. Et il dit à ses conseillers, verset 21, « Allez consulter l'Éternel pour moi, leur dit-il, ainsi que pour le reste du peuple qui se trouve en Israël et en Juda, au sujet des enseignements du livre que l'on vient de retrouver. Ceux que le roi avait désignés se rendirent chez la prophétesse Hulda. » Alors Hulda leur dit, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez à l'homme qui vous a envoyé à moi, l'Éternel dit, « Je vais faire venir un malheur sur cette contrée et sur ses habitants, en accomplissant toutes les malédictions inscrites dans le livre que l'on a lu devant le roi de Juda. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, « Ton cœur s'est laissé toucher, tu t'es humilié devant Dieu, et tu t'es humilié devant moi, tu as déchiré tes vêtements et tu as pleuré devant moi. De mon côté, moi aussi j'ai entendu ta prière, l'Éternel le déclare. » Hulda a une mauvaise nouvelle pour le peuple, mais Hulda a une bonne nouvelle pour Josias. « J'ai entendu ta prière, dit l'Éternel. » Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que finalement Josias, pour nous, est un formidable symbole d'espoir. Josias, à 26 ans, veut réparer la maison de l'Éternel. Josias, à 26 ans, veut réparer la maison de Dieu. Et à 26 ans, c'est le Dieu de la maison qui répare son cœur. C'est le Dieu de la maison qui répare Josias. Vous connaissez ce beau verset? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Josias veut réparer la maison de Dieu et c'est le Dieu de la maison qui le répare. Si tu fais de Dieu ton plus cher désir, si tu cherches à plaire à Dieu de tout ton cœur, si tu cherches à t'occuper de Dieu de tout ton cœur, alors Dieu va s'occuper de toi. Et là, pour être tout à fait concret, est-ce que ça ne vaut pas le coup de venir faire le ménage dans la salle ici dans l'église? Quand tu fais le ménage de l'église de Dieu, c'est Dieu qui veut aussi faire le ménage de ton cœur. À méditer pendant qu'on a un balai à la main. Ce roi qui a entendu le livre, ce roi qui a découvert le livre, ce roi qui a déchiré ses vêtements, ce roi qui a décidé de consulter l'Éternel, c'est un roi qui est transformé, c'est un roi qui désormais est devenu joyeux et influent. Ce roi joyeux et influent, on le voit à travers trois réactions de la part du roi Josias. Un engagement public, une fête publique, une réforme publique. Engagement public parce qu'en fait, il convoque tout le peuple et devant tout le peuple, il va dire au peuple « Je fais alliance avec Dieu et je veux lui être fidèle. » Et il va demander au peuple de s'engager avec lui. Fête publique, parce que la fête de Pâques organisée par Josias est sans équivalent dans l'époque, dans cette époque du royaume de Juda. Lui-même va offrir plus de 30 000 agneaux et chevreaux pour qu'ils soient offerts en sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Troisièmement, réforme publique, parce que Josias va prendre la décision de parcourir son pays et va continuer à détruire des idoles, à mettre de l'ordre, à purifier le peuple et à rappeler le peuple à l'Éternel. Le bilan de ce règne, Josias, c'est un roi dont on apprend à sa mort qu'il a une mort en fait qui est assez pathétique. Voilà qu'il y a le pharaon, le roi d'Égypte, qui veut aller se battre contre le roi d'Assyrie. Et il se trouve qu'il doit passer près du royaume de Juda. Et Josias décide d'aller se battre contre Pharaon. Et Pharaon lui dit, non mais viens pas te battre contre moi, j'ai rien contre toi, je vais me battre contre le roi d'Assyrie, et viens pas t'occuper, ne te mets pas en travers de mon chemin. Et Josias se met en travers de son chemin. Pour éviter d'être la cible de l'armée adverse, il se déguise. Et manque de bol, il se prend une flèche de la part d'un archer, une flèche inconnue. Et s'il y a bien une manière honteuse de mourir pour un roi, c'est de mourir sous une flèche. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait même pas qui lui a donné la mort, il n'a même pas pu se battre pour défendre son honneur. C'est une mort qui est terrible. Et pourtant, le texte ne retient pas ça de Josias. Le texte retient ceci. Aucun roi avant Josias ne revint comme lui à l'Éternel de tout son cœur, de tout son être et de toutes ses forces, en observant toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en a point paru de semblable. Ce que l'histoire biblique retient de Josias, c'est que c'est un modèle d'attitude vis-à-vis de Dieu qui a influencé son peuple et qui peut nous influencer encore aujourd'hui. Et cela, c'est encourageant, puisque finalement, quel souvenir va-t-on avoir de nous après notre mort? Est-ce que c'est le souvenir qu'on a été riche, célèbre, fort, beau et puissant, ou est-ce que c'est le souvenir que nous avons eu une bonne influence, que notre vie a été une vie qui a plu à Dieu? Alors, il y a un petit bémol quand même. C'est en fait Jérémie, qui est un observateur du roi Josias, Jérémie écrit dans au chapitre 3, verset 6 de son livre, Jérémie écrit au sujet de Josias que le royaume de Juda n'est pas revenu à l'Éternel sous le roi Josias. Autrement dit, la réforme de Josias, ça a été une réforme que l'on peut qualifier d'en haut. Une réforme qui était imposée par le pouvoir royal et qui n'a pas vraiment changé le peuple en profondeur. Alors, juste une petite parenthèse. On a souvent tendance à se plaindre des décisions prises par nos dirigeants politiques, en particulier lorsqu'elles sont contraires à nos valeurs. Mais ici, on a l'exemple d'un dirigeant politique qui prend des décisions courageuses, qui prend des décisions qui sont censées être selon la volonté de Dieu, mais dont l'impact, en fait, est peu efficace sur le peuple. Et la leçon qu'on peut tirer de cela, c'est que certes, on est content lorsque nos décideurs politiques prennent de bonnes décisions. Mais ce qui compte avant tout, c'est que le peuple qui entend ces décisions ait un cœur qui soit disposé à plaire à Dieu, qui soit disposé à faire la volonté de Dieu. Autrement dit, ce qui est plus important, ce n'est pas ce qui se passe là-haut dans la tête du pouvoir, mais c'est ce qui se passe dans mon cœur, que mon cœur se laisse toucher par ce que Dieu a à lui dire. Au final, on voit que Josias, au cours de sa vie, c'est un roi qui a connu une évolution extraordinaire. Comme la sonde Rosetta est partie en 2004 et est arrivée aujourd'hui, et dont la trajectoire a dû être modifiée au cours du temps, vous avez entendu d'ailleurs ce qui s'est passé cette nuit, cette sonde, c'est l'atterrisseur qui a été posé sur la comète était mal posé. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a une batterie à l'intérieur qui se recharge grâce au rayon lumineux. Or, dans la position où elle était, elle pouvait recevoir qu'une heure et demie de soleil par jour. Et ils ont cherché à modifier sa position pour qu'elle puisse avoir 6 heures de soleil par jour et être réutilisée plus tard. Et ils ont réussi cet exploit de faire pivoter le panneau solaire de 35 cm de telle sorte que cet atterrisseur soit mieux exposé au soleil. Finalement, c'est ça qui s'est passé au cours de la vie de Josias. Son cœur a été incliné différemment, de telle sorte que Dieu puisse mieux éclairer de ses rayons sa vie et ses décisions. Est-ce que ça ne fait pas envie d'être un homme ou une femme qui ait la capacité d'influencer les personnes autour de soi? Est-ce que nous n'avons pas envie, comme Josias, de pouvoir être en quelque sorte un roi qui va influencer d'autres personnes autour de soi? Est-ce que tu as envie d'être une femme, un homme d'influence, que ce soit pour tes camarades, pour tes partenaires, ton partenaire, tes collègues, pour ta famille? La question est comment être une personne de bonne influence? Eh bien, la réponse est que, comme Josias, il est important d'être aussi une femme, un homme, sous influence. Si Josias est un modèle de roi qui a influencé sa génération parce que lui-même a été sous bonne influence, est-ce qu'il existe un modèle supérieur de roi qui puisse lui aussi influencer ma vie aujourd'hui? Un roi influencé par le livre, un roi qui a influencé son peuple, et un roi qui a même été jusqu'à influencer son père, Dieu lui-même. Est-ce que ce roi ne serait pas Christ? Josias a mené une vie qui a apaisé la colère de Dieu et qui l'a reportée d'une génération. Christ a mené une vie qui s'est terminée par sa mort. Et qu'est-ce que sa mort a fait? Elle a apaisé la colère de Dieu et elle l'a reportée pour toutes les générations. Jésus-Christ est donc un homme exceptionnel. C'est un roi dont la vie et les paroles peuvent changer ma vie. Et si aujourd'hui, je suis sous l'effet de la colère de Dieu, ce roi Jésus-Christ, que je peux découvrir à travers ce livre, que j'ai peut-être mis en oubli dans ma vie, ce roi Jésus-Christ est celui qui peut me sauver de la colère de Dieu. Et je vous laisse avec ça.